Bonjour. Nous sommes ensemble pour la deuxième partie de Vive la Sociale, un numéro spécial des Papous dans la Tête enregistré en public le 30 septembre dernier et c'était le premier de nos rendez-vous avec vous au studio 105 de la Maison de la Radio, un petit studio bien sympathique pour nos rencontres. Vous dans la salle, confortablement lovés dans vos fauteuils et nous sur scène, prêts à tout pour vous faire rire et sourire. C'est bon d'entendre un public joyeux à cette époque un peu difficile. Dans la belle équipe des Papous ce soir-là, il y avait Lucas Fournier, Eva Almassy, les Patrices, Caumont, Minet, Delbourg, Patrick Beignet, Hervé Le Tellier, Jeanne Carillon et Pablo Gignoli, l'ami musicien argentin, pote de Ricardo Mosner, avec son bandoneon pour la musique importante, la musique dans les soirées live des Papous. On retrouve le fil de cet enregistrement public avec Jeanne Carillon, à qui j'avais demandé de traiter le mot « ouverture » sous forme de petit rimailleur, mais en chanson, important ce mot pour marquer des points dans une négociation, se glisser dans une conversation, ou bien tirer un beau passing shot au tennis. Il faut trouver l'ouverture. Jeanne Carillon, accompagnée par Pablo Gignoli au bandoneon, sur un tango de Piazzolla.
Jour d'ouverture, je suis là pour sûr. Chanter le début, les prémices, l'introduction. Il me plaît à jouer les oiseaux de bon augure et démarrer illico à l'heure d'ouverture. Ouverture musicale pour vous mettre en appétit. C'est l'heure d'ouverture, loin de la clôture. J'attaque, je démarre, je commence, j'allume tout. Sur un tango, je t'emmène. Préliminaire, prolégomène. Sur ce tango, je dégaine. Ouverture de la jambe, ouverture de tes oreilles. Garde ton ouverture d'esprit, de culture. Ta focale, ma focale, nos objectifs sous en grand. Ouverture du show, ouverture du festival. Ouverture du bandoneon, passionne fatale. L'ouverture de ma cage thoracique, rien que pour toi.
Alors, on a beaucoup parlé du patron, il serait temps de parler du militant. Et Patrice Minet, vous avez le profil, je me trompe,
oui. Ouais,
un petit peu. Alors, vous allez traiter le militant en vers, je crois.
Voilà.
En chanson aussi.
Des morceaux.
D'accord.
Dans la vie, il ne faut pas s'en faire, moi je ne m'en fais pas. Toutes ces petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Jamais. Jamais vous m'entendez cette chanson, jamais, chantée par un militant, jamais vous ne l'entendrez. Le militant ne milite pas en chantant, ou alors des slogans. Aujourd'hui, dans la rue, demain on continue. Voici venir le temps des rires et des chants. Pour les militants, c'est tous les jours le printemps. C'est le parcours joyeux. On milite heureux, les flics sont gentils, oui c'est un paradis. Paradis pour les uns, pas un radis pour les autres. À Neuilly, oui, on a aussi des soucis. Jamais. Le militant n'est pas de cette race, du genre béni, oui. Il veut que ça casse. C'est le genre émeutier, combattant, batailleur, contestataire, indocile, provocateur. La retraite, on s'en fout, on veut pas bosser du tout. Tout est rien, rien n'est tout, tout, pauvre chien. On a perdu un petit garnement, on l'a retrouvé au rayon militant. Il embrassait une cause perdue. Petit militant, pourquoi milites-tu? Je milite pour la liberté des vers, et néanmoins je persévère. à mettre à chaque bout de ligne n'importe quoi pourvu que ça rime. Par exemple, pour les riches, des couilles en or, pour les pauvres, des nouilles encore. Ah oui, ça rime. On m'appelle militant joli, je manifeste pour un non, pour un oui, je cherche ma cause. Vous n'avez pas vu ma cause ? Ce n'est qu'un combat, continuons le début. La poésie est dans la rue. Je suis pas militaire, je suis militant. Un pas en arrière, un pas en avant. Je n'écoute pas les boniments. Un pas en arrière, un pas en avant. Trois pas en avant, deux siècles en arrière, c'est la politique du gouvernement. CRS égale tendresse. Le militant aime beaucoup les militantes, les activistes, les combattantes. Et si toi et moi, on faisait un petit trublion, on lui donnerait quoi comme prénom ? On verra quand il sera temps, en attendant. Unitaires de tous les pays, prolétez-vous ! Même mouillés, ils sont secs ! Dans la cellule de mon parti, il n'y a pas de gêne, que du plaisir. On milite pour notre avenir, on marche ensemble, ensemble on crie « Ah bah, les boutons pression, les fermetures, éclair ! Ah bah, les boutons pression, les fermetures, éclair !»
Vous avez quelque chose à ajouter sur le militant, Eva Almassi ?
J'ai juste retrouvé une citation de Jean-Luc Mélenchon.
Oh, ben ça tombe bien.
Avec le militant va, tout s'en va, le parti qu'on adorait quand on défilait sous la pluie.
C'est signé, c'est joli. Mais il écrit très bien, Mélenchon. Hein. Et vous, Hervé Le Tellier ?
J'ai trouvé une phrase de Stiglitz.
Oui.
On reconnaîtra le vrai militant libéral. Est-ce qu'il est trop individualiste pour accepter d'être à deux pour porter une banderole ?
Des papous dans la tête, vive la sociale, en public au studio 105. Pablo Gignoli, un petit air des Beatles, Here Comes the Sun. On n'a pas tous la même place dans la société, on n'a pas tous les mêmes opinions, on n'a pas tous la même religion, on n'a pas tous la même couleur de peau, mais on a tous quelque chose en commun, c'est la peau, justement, la peau organe. Et Patrice Delbourg, il n'aime pas qu'on touche à sa peau, ni à la peau des autres, et ça le met très très en colère, vous allez voir, Patrice Delbourg.
Oh, que je maudis, que je déteste, que je conchis les tatouages, voilà. Tous les tatouages à la face de mes contemporains. Mais qu'est-ce que c'est que cet ostensible affichage épidermique ? La peau n'a nulle vocation d'homme sandwich, l'étalage obscène de sa vie amoureuse, de ses rêves gothiques et de ses petits secrets maçonniques à fleur d'écorce. N'a rien de ragoûtant, l'épiderme doit rester vierge. Question d'élégance, comme un océan de neige immaculée, comme une chorale de première communiante chlorotique. ou comme un bol de cacao matinal frémissant sous la tartine. Pas de graffiti, pas d'immatriculation, pas d'épigramme sur le lard que vos géniteurs vous ont généreusement alloué. Avançons à découvert. La couette n'a pas d'histoire à raconter, sinon pas le sillon des rides, oui, ou les taches de vieillesse. Notre pellicule doit rester limpide, nickel chrome, le tégument, verrue, gerçure, crevasse, fleur de cimetière, d'accord. C'est la loi de l'érosion des tissus intimes, mais ces slogans dégénérés pour paumer des grands soirs, ce crucifix sur la cuisse, ce bulldog sur l'épaule, une encre marine ou un hibou dans le creux poplité, un triskel, une croix de Malte sur le gros orteil, un logo de Superman sur la fesse, le nom de Madonna gravé entre les sourcils, pourquoi pas le début du roman de la rose autour du nombril, ou un discours de Staline poinçonné dans la nuque. La peau est orpheline, la peau reste apatride, avançons démunis, sobres et détachés, sans ces étiquettes d'appartenance qui vous transforment en bibelots soldés dans des brocantes d'arrière-saison. Ah, ces signes tribaux qui vous bouffent le dos, ces grappes d'idéogrammes asiatiques qui vous grimpent le long de votre échine comme un lierre maléfique, et ces nuées de mandalas qui attaquent le sternum. Transformer sa charpente en tableau vivant, c'est vulgaire et débile, sauf quand c'est un Modigliani et que c'est au cinéma. Des initiales incrustées sur le poignet ou son numéro de téléphone sur le biceps, ça rappelle les matricules de ceux de Biribi ou de Tataouine. Laissons le marquage aux vrais forçats ou aux manades de Camargue. Que dire des messages syndicaux, des banderoles révolutionnaires, du portrait du Che, de l'effigie de Mao ou de Robespierre au pli fessier? On n'utilise pas son corps pour exprimer sa colère. Il y a la chaussée sur le trajet République-Bastille pour ça. C'est toujours triste d'exhiber sur sa carcasse qu'on n'est pas capable de penser dans son cerveau. Une citation de Schopenhauer ou de Spinoza sur le mollet ne vous donnera pas la moyenne au bac. C'est pathétique de se mettre du rouge à lèvres, du fond de teint ou du rumel qui ne s'enlèvera jamais. On ne sait pas de quoi demain sera fait. L'eau passe sous les ponts dans 15 ans. On aura des goûts différents. Oui, c'est hideux un tatouage, surtout en couleur. Ça vous fait des bras atrophiés, des pubis sanguinolents, des reins cadenassés de Valkyrie en armure. Je ne parle pas des pathologies que ces scarifications ineptes peuvent entraîner. Abcès, un pétigo et même un gant maigre. Anthrax, Panaris, Zona, Furonculose, Orgelet, Flegmont et autres mycoses purulentes, merci bien. Mais toutes ces alertes sanitaires n'y font rien. Elle est tatouée, cette chanson, toi l'innocent qui sans façon bousille ton corps avec un sourire de toréador. Et puis ça fait un mal de chien, paraît-il, ces entailles en forme de décalcomanie de Malabar pour rétrécir du bulbe. Sans compter que cela devient de plus en plus moche avec le temps, ces stupides vignettes en forme de ferrade. On dirait des brûlures au troisième degré avec plaie, croûte et écoulement de pu. Tout ça pour montrer la volonté épaisse de marquer de manière inaliénable son passage terrestre à la façade de sa pauvre carcasse. Quelle pitié. Oh.
On va jouer à la textée avec Lucas Fournier, Hervé Le Tellier, Patrice Delbourg et Val Massy qui écriront leur textée ici, devant vous. Et ça, c'est la première fois qu'on le fait. En public. Alors, Lucas Fournier, vous avez texté un certain texte, on ne peut pas dire autre chose, que vous avez choisi, et vous le textez comme on fait une dictée à l'école, si ce n'est que, évidemment, aucun des mots du texte ne doit apparaître. Vous allez parler par métaphore et autres formules grammaticales, peut-être. Vous avez prévu combien de consignes ?
Alors, il y a 8 consignes, oui, qui correspondent chacune à une ligne, donc ça fait 8 lignes, sauf une consigne qui fait 2 lignes, d'accord, qui fait un total de 8 plus 1, 2. 9, pardon.
Donc il n'y a pas trop à écrire.
Il y a 9 lignes à écrire et c'est de la littérature très connue et de bonne tenue.
Alors, voilà. On écoute vos
Alors,
consignes.
Voici mes consignes. 1. C'est au conditionnel qu'un bon coup de semonce vous prévient fermement qu'un désastre s'annonce.
Oh, ce sont des vers en plus.
Alexandrin. 2.
Oui, j'avais vu.
Pour qu'il n'arrive pas ou bien pour qu'il arrive ce désastre, il n'est en gros qu'une alternative. 3. Un verdict fatal constate la nouvelle dont le bref contenu incertain interpelle. Facile. 4. Le drame est confirmé de façon lapidaire, très officiellement, comme chez un notaire. 5. Sur un ton détaché, on propose un coupable, on suppute la cause et le vrai responsable de cette catastrophe. Message subliminal, c'est un peu grâce à vous que tout est allé mal. Ça va bien ?
Oui. Oui. Non, mais vous aurez la feuille de route sous le nez. Hein.
Oui.
Pas d'inquiétude.
Oui. Il suffit de suivre la consigne.
Oui, oui, oui.
Six.
Il faut se laisser aller à ce jeu. Il faut être très obéissant par rapport aux consignes.
Un espoir, des secours, enfin hypothétique, c'est un recours possible, bien que très théorique. Mais vu la triste ambiance, c'est sympa à entendre. 7. Rien ne s'arrange. Avec autorité des êtres inconnus, signale votre cas. Vous voici prévenu. 8. Le drame est consommé. Dans un dernier instant, le combat cessera, faute de combattants.
C'est un beau texte qu'il a écrit, hein, Lucas Fournier. On ne sait pas ce qu'il a cherché à nous texter. Et ce n'est pas le jeu de deviner, non. Évidemment. Alors, vous leur distribuez leur feuille de route et vous allez travailler derrière nous. Pas de questions, ce n'est pas nécessaire. Ça a l'air facile.
C'est en français. Hein.
C'est un texte en français.
Et on passe au joli dimanche de Jeanne Carillon. Un joli dimanche a cappella. Eh oui. Et selon Jean-Sébastien Bach...
Je chante pour vous la cantate du dimanche. Oh, comme il est bon de savourer le dimanche, plus agréable que le lundi. Oh, oh, que c'est bon le dimanche. Oh, oh, au monde au dimanche. Je me laisse couler dans mon dimanche, je respire le dimanche, j'efface tout le dimanche, j'oublie tous mes soucis le dimanche. Le dimanche, le dimanche, c'est le jour où l'on se déhanche. On se déclenche, on se penche, on s'en manche. Le dimanche, ah, ah. Qu'il est chaud mon dimanche, ah mon Dieu, pourvu que les enfants débranchent. Le dimanche, je veux tout ou rien. Je n'aime pas la tiédeur le dimanche, ah, ah. Passionné mon dimanche, exalté, enflammé, oh oui, torride dimanche, oh je veux du brûlant pour mon dimanche. Je chante pour vous la cantate du dimanche, et c'est au papou que je chante ce dimanche, mais jamais, jamais le lundi. Oh, oh. Chantons le dimanche, ah, ah, roucoulons le dimanche, ne cessez pas de vous languir du dimanche. N'oubliez jamais le dimanche, le jour où votre désir s'étanche. Et vous verrez gazouiller en vous la cantate qui égaye votre joli dimanche.
Des papous dans la tête sur France Culture, vive la sociale. Et c'est le moment du roman interactif avec Lucas Fournier, Patrice Caumont, Patrick Beignet et Patrice Minet pour la chanson. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un roman interactif ? C'est un roman à plusieurs mains. Le premier écrit le premier chapitre et il le stoppe, ce premier chapitre, sur un choix entre trois hypothèses de suite possibles. Le suivant fait son choix et continue, et ainsi de suite, jusqu'au dernier. En fait, le dernier, ce sera à nouveau Lucas Fournier parce que le roman lui reviendra. Et c'est agréable de lancer une histoire et qu'elle vous revienne. Un petit peu différente, forcément. Alors, est-ce que le roman porte déjà un titre, Lucas Fournier ?
Ah oui, moi je suis resté dans le thème, ça s'appelle « Lost in Manifestation ».
Bah, c'était un peu la consigne. Hein.
Ouais. Oui, « Lost in Manifestation », donc ça commence par le chapitre 1. Ouais. Et le titre du chapitre 1, c'est « La Belle et la Bête, saison 2 ». La première fois que Quasimodo vit la princesse de Clèves, il la trouva franchement laide. Non, et c'est vrai que la malheureuse n'était pas à son avantage ce jour-là. À peine débarquée à Orly de l'avion de Pau, enfin, tous ceux qui ont lu l'œuvre, si nombreux parmi vous, savent que depuis sa rupture avec le duc de Nemours, la princesse de Clèves vit retirée dans les Pyrénées.
N'est-ce pas ?
Elle s'était donc jetée dans un taxi pour rejoindre la place de l'Étoile. C'est là qu'était prévu le rassemblement des héroïnes de la littérature française du XVIIe siècle. Elle devait ensuite se constituer en cortège pour aller défiler avec tous les autres dans le cadre de la manifestation nationale du collectif « Les personnages littéraires contre l'oubli ». Ah, quel spectacle vivant offert aux Parisiennes et aux Parisiens que ces troupes du roman, de la poésie, du théâtre français, héros de fiction plongés dans l'affliction, innocentes victimes du désamour des livres, écartés des esprits au profit des hordes de petits hommes de manga, des êtres virtuels numérisés, des avatars et des personnages de blockbusters mondialisés. Un peu intimidée, la princesse de Clèves n'avait pas osé s'approcher des grosses pointures, Phèdre, Célimène, Chimène et consorts. Non, elle s'était glissée en queue de délégation à côté de Yolande de Sicile, l'héroïne un peu oubliée de Jean de Préchac, 1647-1720, et de Zélinde, aussi mal connue, créée par Jean Donneau de Visé, 1638-1710. À la Concorde, Quasimodo occupait à peu près la même place, la dernière à côté de Charles Bovary, dans le cortège des héros de romans du 19e. C'était une énorme délégation conduite par Fabrice Del Dongo et Rastignac. On s'était battu pour être au premier rang entre le capitaine Nemo, Julien Sorel, Bellamy, Cyrano de Bergerac tenait le porte-voix, le virtuel, ah, la poubelle, Homer, oui, Simpson, non, Pokémon, go, home. Ce jour-là, donc, Quasimodo fit la connaissance de la princesse de Clèves. Son cortège à lui qui remonte les Champs-Élysées croise le sien à elle qui les descend. Une volée de pigeons passe au-dessus d'eux. Pan ! Un coup de fusil. Non, c'est Tartarin de Tarascon qui a tiré. C'est raté. Elle frémit, le regard rassurant de Quasi rencontre celui effarouché de la princesse. Fugitive laideur dont le regard me fait soudainement renaître. Trop tard. La force du destin qui les a fait furtivement se croiser les éloigne à nouveau. Elle monte, il descend. Quasimodo veut la retrouver. Il quitte la colonne montante des héros littéraires du XIXe siècle, traverse les Champs-Élysées à contre-courant. Les héroïnes du XVIIe qui descendent depuis l'Étoile de l'autre côté de l'avenue sont déjà loin devant. Et le voici, Quasimodo, emporté au milieu de la vague suivante, celle des héroïnes du XVIIIe siècle, entre la marquise de Merteuil et la Justine de Sade. Oui, il y a pire malheur sur la terre. Mais ventre amoureux n'a pas d'hormones. Et Quasimodo s'arrache à leur étreinte pour tenter de retrouver sa princesse. Il ne sait pas, hélas, Quasi, que la princesse de Clèves, qui n'avait plus senti depuis 1678 la brûlure du regard d'un homme posé sur elle, a interrompu sa trajectoire. Elle s'est lancée à sa recherche, à lui, Quasimodo, dans le peloton des personnages masculins du 19e remontant les Champs-Élysées. Mais arrive déjà la masse compacte des héros du 20e siècle, qui, plus jeunes et donc plus rapides, ont dépassé leurs collègues du 19e à la hauteur du rond-point des Champs-Élysées. Et la voici emportée, notre princesse, dans le flux des garçons. Jules et Jim lui proposent un tour en voiture. L'étranger veut l'emmener à Paris-Plage. Swann trouve que sa robe constellée de pierreries semblable à la capeline évanescente du personnage de Carpaccio d'Oro. Enfin bref. Bref, il y a un monde fou. 10 000 personnages selon la police, 100 000 selon l'Académie française. Et là, donc, trois hypothèses.
Pour la suite.
1. Une horde ennemie de personnages virtuels échappés des smartphones a pris position place de l'Étoile, prêt à en découdre. Javert et Jean Valjean décident d'emmener le collectif des personnages à travers les égouts de Paris. 2. Quasimodo fait tintinabuler les cloches de Notre-Dame pour que la princesse entende l'appel de son amour. 3. Une petite main attrape la princesse de Clèves par la manche. « S'il te plaît, dessine-moi un mouton. » La princesse n'a pas le temps de répondre, mais je ne suis pas Marie-Antoinette que...
Oh là là, quel joli choix et quel joli chapitre. Le suspense est insoutenable. Patrick Beignet, c'est vous qui prenez le relais. Avec quelle hypothèse ?
Avec la première hypothèse.
Et alors ?
Et alors, c'est le chapitre 2.
Oui, et son titre.
Il vient après chapitre 1. Et ça s'appelle « Voulez-vous une tasse de thé ?» Une heure et demie de personnages virtuels échappés des smartphones à préposition place de l'Étoile, prêts à en découdre. Javert et Jean Valjean décident d'emmener le collectif des personnages à travers les égouts de Paris. pris dans le groupe, Quasimodo suit le mouvement. Il aurait pourtant préféré rejoindre la princesse de Clèves plutôt que le couple étrange du policier et de l'ancien bagnard. La première fois qu'il vit les égouts, Quasimodo les trouva franchement dégoûtants. « Eh bien, se disait-il, ils sont pas beaux, les égouts de Madame Hidalgo. Quelle horreur! C'est gluant, noirâtre et répugnant. Hélas, jamais la princesse ne viendra par ici. Elle aurait trop peur de salir sa belle robe Henri III ou Henri II, je sais jamais. Paris était tout de même plus propre sous notre bon roi Louis XIe. » Soudain, la manifestation des héros du XIXe siècle se heurta à une autre, plus inquiétante. C'était la grande manifestation des rats. Tout près de lui, il reconnut le rat des villes, très inquiet. Il cherchait le rat des champs, qui n'était pas arrivé. S'était-il perdu dans le RER ? Heureusement, les autres rats de la fontaine étaient tous là. Et il y en a. Le rat des villes expliqua à Quasimodo qu'ils manifestaient eux aussi contre l'oubli. Parce qu'on cite toujours le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi, mais presque jamais les fables dont les rats sont les héros. Qui peut réciter la grenouille et le rat et l'éléphant, ou la ligue des rats ? Toi, Quasimodo, demande le rat des villes, je parie que tu ne connais pas le rat et l'huître. Sur ce, le rat des villes disparut dans la foule, car au loin, il venait de reconnaître le rat des champs, enfin arrivé. Quasimodo commençait à déprimer, quand il reçut un coup au cœur, entre deux rats, il crut voir sa chère princesse de Clèves. Mais non, c'était pas elle, c'était bien mieux. Une petite personne qui n'avait pas l'air pète sec de la princesse de Clèves. Il la reconnut soudain. C'était Zélinde. Oh. Oui, Zélinde, la Zélinde de Donaudevisée, 1638-1710. Le cœur de Quasimodo balança un instant. Leurs yeux se rencontrèrent. Il se dit qu'il allait s'éprendre de Zélinde et la rejoindre, quand une grosse voix masculine et une poigne de fer le retinrent. Furieux, il se retourna. C'était Javert. « Et dites donc, vous, Quasimodo, vous n'êtes pas une héroïne du XVIIe, que je sache. Allez où, c'est à votre place, à côté de Monsieur Bovary. » C'est la dure loi des manifestations bien organisées, surtout menées par un policier aussi strict que Javert. Être coincé entre Charles Bovary et le père Grandet, c'est pas franchement un sort enviable quant au rêve de la princesse de Clèves et de la mignonne petite Zélinde. Quasimodo allait s'énerver quand il se retrouva soudain à côté du capitaine Nemo, qui lui dit « J'en ai assez de ces mouvements de foule. Je suis un individualiste, moi, tout comme vous. Regardez cette clé. Elle ouvre la petite porte que vous voyez là-bas. Et derrière la porte, vous ne devinerez jamais ce qui nous attend. » « La princesse ?» demande Quasimodo. « Mieux, beaucoup mieux qu'une princesse à la fugitive beauté. Mon Nautilus, dont la beauté est, elle, proprement insubmersible. » Ils s'y engouffrèrent. « Ouf !» dit Nemo. « Nous voici à l'abri des cortèges et des manifestations. Voulez-vous une tasse de thé ? En l'attendant, je vais vous jouer la toccata et fugue BWV 565 de Bach. » C'était le seul morceau qu'il connaissait avec « Ne me quitte pas ». Alors, trois hypothèses pour la suite. La première, une charmante soubrette apporte le thé. C'est Zélinde qui propose à Quasimodo de partir ensemble déguisé en poulpe géant. Deuxième hypothèse, un scaphandrier frappe au hublot du Nautilus. C'est la princesse qui déclare son amour à Quasimodo et lui propose de rejoindre la manifestation des couples les plus in de l'année. Enfin, troisième possibilité, une autre jeune femme frappe au hublot. C'est Yolande de Sicile, l'héroïne oubliée de Jean de Préchac, furieuse qu'on s'occupe de Zélinde et pas d'elle.
Oh, c'est palpitant. Patrice, comment je suppose que vous êtes très excité de reprendre l'histoire, non ?
Ah, mais j'en peux plus.
Alors, vous prenez Nemo ?
Je prends la deuxième.
La deuxième. Allez-y.
Donc, c'est le chapitre 3.
Oui, il a un titre.
La vertu n'avait pas de prénom.
Ah, mais c'est vrai que Clèves n'a pas de prénom.
Un scaphandrier frappe au hublot du Nautilus. C'est la princesse qui déclare son amour à Quasimodo et lui propose de rejoindre la manif des couples les plus in de l'année. Plongeurs et femmes grenouilles pratiquent le langage des signes. Une aubaine pour notre bossu, qui, rappelons-le, est sourd comme une méduse. le tendre visage de la Clève est embué derrière le double vitrage du hublot et de son scaphandre. Elle fait des bulles, et Quasimodo lit dans ses phylactères une invitation au voyage. Tous les égouts mènent à la Seine, ainsi font-ils surface sous le pont Mirabeau, qui sonne l'heure, esquise, loin du bourdon de Notre-Dame. La Clève crache le nénuphar qui obstruait ses voies respiratoires. Quasimodo, qui n'avait enlacé que des cloches, la trouve fort fluette à l'étreinte. Il la soulève comme une plume, elle a un petit poil à la princesse.
Il y a toutes les références possibles.
Ah, vous voilà enfin ! Crie Estragon, l'un des deux clochards sur un banc.
Voilà.
On s'impatientait en attendant Quasimodo. Désormais, à deux, vous devez rejoindre le cortège de ceux qui s'aiment sous leur couverture. Pour atteindre l'inaccessible étoile, ils remontent les champs et aperçoivent l'immense banderole soutenue par Eurydice et Bérénice. Le mariage pour tous, à la fin des romans. Suivent bras dessus, bras dessous, Tristan et Iseut, Paul et Virginie, Charlotte et Werther, Oedipe et sa maman. La princesse, consciente de la modestie de ses tirages, n'ose pas s'afficher au rang des Madame Arnoux, de Rénal ou de Meursault, et préfère marcher aux côtés de la Sophosnib, héroïne peu connue de Jean de Merret, 1610-1686, et de la discrète Phyllis de Vionda-Libray, 1600-1650. Tout à coup, hurlant « Tadzio, Tadzio !» devant le Lido, un touriste allemand les bouscule, et Quasimodo perd la main de sa princesse. Elle est emportée par la foule qui la traîne et l'entraîne. La manif qui les avait unis les sépare. Et dire que je connais même pas son prénom, pense Quasimodo fou d'angoisse. Un instant, il croit percevoir Esmeralda, vieillie et un peu grassouillette, et se dit « J'ai gâché des années de ma vie pour une femme qui n'était pas mon genre. » Quand soudain, un black bloc casqué et comme venu de nulle part, fond sur lui tel un aigle noir. Aïe ! Le commando des intermittents du roman s'en prend à Quasimodo. Et pan ! Mais ça, c'est Tartarin qui manque l'aigle noir. Les intermittents du roman exigent un minimum garanti de pages. Car comment exister en seulement deux ou trois lignes ? Dans leur rang, l'on compte un mousquetaire, mais du cardinal, le coiffeur de Swann, la maman de l'étranger et tous les voyageurs de l'impérial. Clève, esselée et malheureuse, passe devant une vitrine de piercing et tatouage et décide d'effacer le sien, un gros « mon nemours toujours » à l'encre bleue. À la place, elle se fait tatouer un joli cul majuscule. Elle se dit que Quasimodo est un joli prénom, elle qui n'en a pas. Lui, qui a rejoint le cortège, se trouve bien seul au milieu de ses personnages en ménage. La vie de couple en roman n'est pas toujours un conte de fées. Ainsi, Abélard, profitant du défilé pour harceler la nouvelle Héloïse, abandonne la sienne. Roméo lâche sa Juliette pour pincer celle de Sade. Daphnis laisse sa Chloé pour draguer celle de Colin. Et le misérable Marius, là de faire Cosette, veut se faire Fanny. Pour remettre de l'ordre, on balance des lacrymogènes, de peu d'effet sur les lamartiniennes, mais pas sur la princesse tatouée qui, loin de son quasi-amant, sanglote. Lui, au contraire, s'est bien repris et cherche à rejoindre le sommet de l'Arc de Triomphe pour tenter d'apercevoir, de là-haut, sa Clève disparue. Agile et bon grimpeur, il l'escalade par la victoire de Rude. Du haut de l'arc, tel un King Kong à visage presque humain, il s'agrippe à la barre de l'hélicoptère qui filme la manif pour faire 3 Nevers. « Touchez pas ma bosse !» lance Quasimodo à Lagardère, le caméraman de Nevers. « Mais trouvez ma gosse !» Et il lui tend un photomaton de la princesse que l'on passe au pilote de l'Alouette. La première fois que le capitaine Fracasse vit la photo, il la trouva franchement moche. La seconde fois, il crut voir la Laure de Pétrarque, la Béatrice de Dante, la Minnie de Mickey. Mais à la troisième, il reconnut celle dont il rêvait, la divine princesse de Montpensier. Il lança le scan. En quelques secondes, le logiciel de reconnaissance faciale l'encercla d'un rectangle rouge à hauteur du drugstore. Elle était là, sous lui. À partir de maintenant, 3 hypothèses.
On n'en peut plus.
Première. Quasimodo s'aperçoit que le capitaine n'est autre que l'ignoble Frollo, son rival de toujours. Il le précipite du haut de l'Alouette 2, saute sur le toit de l'arc avant que l'hélico ne s'écrase, puis sa clève retrouvée, ils vont voir Cléo de 5 à 7. 2. Tartarin a enfin réussi à abattre l'Alouette. Sain et sauf, capitaine et Quasimodo courent rejoindre leur idéal féminin du 7e. Hélas pour le capitaine, l'idéal ne se partage pas. « En garde !» crie Fracasse et il jette une épée à Quasimodo. Troisièmement, en découvrant le tatouage sur l'épaule de sa bien-aimée, Quasimodo comprend qu'elle est Milady de Winter, venue espionner pour Buckingham. Mais l'amour étant plus fort que le Brexit, il décide d'aller étrangler D'Artagnan.
Le roman vous revient, Lucas Fournier, pour le dernier chapitre. Alors, l'histoire a bien évolué, il s'est passé des choses, on a rencontré plein de gens.
On lance une petite histoire d'amour simplette, et puis voilà.
Alors, le titre du 4e chapitre.
Dieu et le ministère de l'Intérieur.
Ah.
Donc, j'ai choisi la deuxième hypothèse, qui était Tartarin a enfin réussi à abattre l'Alouette, sain et sauf, capitaine et Quasimodo courent rejoindre leur idéal féminin du 17e. Hélas, pour le capitaine, l'idéal ne se partage pas. « En garde !» crie Fracasse, et il jette une épée à Quasimodo. Quittons un instant le cliquetis fracassant des armes blanches et transportons-nous sous les ors de la République dans le silence impérieux de la place Beauvau. Une ride soucieuse barre le joli front bombé du ministre de l'Intérieur qui mesure l'ampleur de la situation. Les dépêches alarmantes s'accumulent. Métro Picpus, une fourmi manifestante de 18 mètres avec un chapeau sur la tête sème la panique. À Vincennes, en plus des rats, des chats, de la belette et du petit lapin, tous les animaux malades de la peste de La Fontaine se sont positionnés aux abords du zoo. Or, les zébus du zoo ne sont pas vaccinés. Oui, oui, et les personnages de la Bibliothèque Rose se joignent au cortège. Il y a des lâchers sauvages de landau dans les rues. À Calais, des migrants britanniques se sont joints au mouvement au cri de « Brexit or not Brexit, do not forget us ». Les English caractères sont emmenés par Lady Macbeth, Sherlock Holmes et Oliver Twist. Gare de l'Est, une délégation roumaine conduite par le comte Dracula vient d'arriver. Don Quichotte, Ali Baba, le dernier des Mohicans, même lui, ils sont venus, ils sont tous là, murmure le ministre. Soudain, son téléphone rouge sonne, sur l'écran apparaît un visage. La première fois que le ministre de l'Intérieur avait vu Vladimir Poutine, il l'avait trouvé franchement laid. La deuxième fois aussi, et toutes les autres. Et là encore plus sur l'écran de visioconférence. Poutine, hors de lui, annonce que les frères Karamazov ont pris les trois sœurs de Tchekhov en covoiturage direction le Kremlin-Bicêtre, qu'Anna Karénine est montée dans le premier train pour Paris et que surtout Michel Strogoff a emmené les 88 000 Cosaques de guerre épée vers Paris. Eux aussi ne veulent pas être les oubliés dans le grand concert des héros littéraires. Et pendant que la manifestation des lettres françaises se transforme en crise mondiale, les amoureux restent les amoureux. Quasimodo et le capitaine Fracasse, nos duellistes, que nous avions laissés à une touche partout, continuent à se battre à l'âme nue. Rappelons qu'il faut 45 touches pour conquérir la princesse de Clèves. Le score est de 44 à 43 en faveur de Quasimodo, qui n'est pas favorisé par le juge-arbitre Cyrano de Bergerac. Nos deux héros ont escaladé les tours de Notre-Dame pour un ultime assaut, Paris à leurs pieds et la frêle et exquise silhouette de la princesse qui se demande lequel des deux va lui offrir sa grande épée. Et plus loin, Zélinde, l'héroïne de Jean Donneau de Visé, 1638-1710, prête à consoler le perdant. Le ministre de l'Intérieur quitte le président Poutine et appelle son collègue, le ministre de la Culture. « Allez, on arrête tout ça, il me faut d'urgence un auteur capable de terminer une histoire vachement compliquée, avec plusieurs milliers de personnages, de tous âges, de tous siècles, de toutes nationalités. Vous avez ça, Houellebecq, Yasmina Reza, Eric Orsena ? Non, vous essayez d'être drôle, non, je veux un géant, un Cécile B2000 !» L'inspecteur Javert se penche à l'oreille du ministre. « Ah mais parfait, vous me le convoquez, Fissa !» L'huissier installe aussitôt un guérigon. Oui, c'est un huissier belge. L'huissier installe aussitôt un guéridon. Il tape trois coups. « Voilà, monsieur le ministre, vous avez Monsieur Hugo en ligne de Guernesey. Le carillon de Notre-Dame sonne à toute volée, faisant monter vers le ciel de Paris des nuées d'oiseaux, comme un vol de gerfaux hors du charnier natal. Il y a un aigle d'oie, un dindon de Feydeau, une mouette de Chekhov, l'albatros de Baudelaire, le canard sauvage. Pan, pan ! C'est Tartarin qui vient de tirer. Ah, le beau doublé ! Et merde ! Ah, la boulette ! Quasimodo et le capitaine Fracasse, touchés par les plombs, dégringolent du haut des tours et s'écrasent comme deux figues molles au pied de la princesse de Clèves. Ah ben décidément, elle a jamais de chance avec les hommes, hein, ça. Et la foule des héros continue d'affluer. Les Tartares venus du désert ont rejoint les Cosaques à Réaumur-Sébastopol. L'alouette du ministre de l'Intérieur fait des loopings au-dessus de la très grande bibliothèque, de l'Académie française et de l'Opéra. Et Dieu apparaît au milieu des nuages. Enfin, Dieu... Victor Hugo, mais c'est pareil. Il avait traversé tout le dessus du monde. Il avait dans les yeux l'éternité profonde. Il se fit un silence inouï. L'on sentit que ce spectre était grand, car tout devint petit. Et Paris fut noirci par l'ombre du géant. Il dit, « Ô vous, héros arrachés au néant, rentrez en procession dans les pages des livres. » Et Paris, libéré, commençait à revivre. Le capitaine Nemo s'était incliné vers la princesse. Je vous dépose. C'est que je rentre à Pau dans les Pyrénées. Non, mais c'est justement ma route avec le Nautilus. Et les voilà partis à bord du Nautilus ou sous la Seine. Nemo, installé devant son clavier, joue son morceau préféré, une fugue.
Patrice Minet, cette très belle histoire vous a inspiré une chanson, non ?
Oui, c'est une histoire, c'est un petit peu à la poursuite de la princesse de Clèves.
Oui.
Voilà,
oui.
Et avec des personnages très attachants,
oui.
Très nombreux à la fin.
Oui.
Et moi, un m'a particulièrement intéressé, c'est Quasimodo, évidemment.
Évidemment, vous êtes identifié dans cette quête d'amour fou, quoi.
Oui, puis son physique. Et ce mental
non,
à toute épreuve.
Non, vous êtes très mignon. Vous allez nous chanter ça ?
Si vous voulez.
Oui.
Vous voulez ?
Oui. Vous voulez qu'on vous encourage encore plus ?
Vous l'aurez voulu.
Juste une petite question au cas où on ne reconnaîtrait pas l'air. Parce que c'est sur un air très connu, je crois.
Bah, connu de moi, en tout cas.
Oui, c'est quoi ?
Allô, maman, bobo.
Souchon.
C'est Chouchon.
Ouais, vous voulez que Pablo vous donne un la ou un sol ?
Si t'as... Ah. J'ai vite su que c'était pas une bonne affaire. Son prénom était un mystère. Mais elle m'a plu, qu'est-ce que vous voulez y faire ? L'amour nous frappe comme un éclair. Elle vit en campagne et moi en ville. C'est pas grave, bon Dieu, lave-la qui file, allez Quasimodo. Oui, c'est son nom et c'est pas du gâteau. Allez Quasimodo, allez Quasimodo. Pour la rejoindre, je descends dans les égouts. Ça pue, mais chacun ses goûts. S'il y a avec ça, mais il y a aussi des rats. Heureusement, Nemo passe par là. Qui me joue du bac, une toccata. Je préfère ne me quitte pas, allez Quasimodo. Filon, c'est trop dur d'écouter Nemo. Allez Quasimodo, allez Quasimodo. Et soudain, qui je vois au milieu de la foule ? Eh ben oui, c'est ma poule. Elle s'est fait tatouer un cul sur le bras, comme mon nom, alléluia. Faut que je la rattrape, faut que je l'attrape, avant qu'elle ne passe à la trappe, allez Quasimodo. C'est pas le moment de faire le gros dos. Allez Quasimodo, allez Quasimodo. Dès le début, je savais que ça serait pas facile. Mais là, c'est pire qu'à Tchernobyl. En plus d'être moche, je passe pour un gros fantoche. Merci les gars pour ce rôle de cloche. Je voudrais être très, très, très comme il faut. Mais je suis Quasimodo, allez Quasibobo. ça fait du bien de pouvoir chanter faux. Allez, quasi bobo. Allez, quasi bobo.
Retrouve donc la textée, le texteur Lucas Fournier et les élèves, disons, Eva Almassi, Patrice Delbourg, Hervé Le Tellier. Alors chacun a son univers, sa personnalité. Il est certain que même en respectant très scrupuleusement les consignes, leurs textes seront différents. Mais si la textée réussit, il y aura une parenté entre leur texte et le texte choisi par Lucas Fournier. C'est ce qu'on va découvrir. Lucas Fournier, réécoute vos consignes une par une, vos jolies consignes en alexandrin.
C'est au conditionnel qu'un bon coup de semonce vous prévient fermement qu'un désastre s'annonce.
Ça donne quoi, Hervé Le Tellier, pour vous ?
Il se pourrait bien que tu ne finisses jamais cette textée dans les délais impartis.
Ça obéit à la consigne parfaitement. Ah, tout va être comme ça. D'accord. Patrice Delbourg.
Faudrait-il que la courbe du chômage un jour s'inverse ?
C'est une question pour vous, hein. Vous trouvez qu'il a respecté, Lucas ?
C'est inconditionnel ?
Faudrait-il ?
Faudrait-il ? Oui, il faudrait, c'est du conditionnel, oui.
C'est une ligne, oui.
Eva Almassi.
Alors, juste là, j'ai fait deux lignes. Parce que c'était un peu contagieux et j'ai fait un poème et il me fallait que pour mes rimes...
Une rime, oui.
Une petite tricherie. Oui. Si Météo France avait raison, il y aurait un orage à l'horizon.
Oh, c'est bien. Ça, elle a le sens de la rime, hein, Eva. C'est très, très joli.
De la rime en nom. Oui.
Alors, est-ce qu'il y a un de ces trois textes qui se rapproche un petit peu de celui que vous avez choisi, Lucas ?
Tous, forcément.
Ah ben c'est bien, oui, donc la textée réussie, on peut le dire dès la première
consigne.
Oui,
dès la première consigne,
c'est
ils ont
formidable.
Respecté la consigne, on va continuer de la même façon.
Deuxième.
Pour qu'il n'arrive pas, ou bien pour qu'il arrive, ce désastre, il n'est en gros qu'une alternative.
Hervé.
Une option, bien sûr, c'est de carrément la bâcler.
Ah non, c'est pas votre genre. C'est... Vous parlez toujours de la textée, de l'exercice.
Ah oui, c'est bien.
Oui, non, c'est... ça lui plaît en tout cas, Patrice Delbourg.
Afin qu'il cesse... sur Clamart surface de pleuvoir averse.
Ah. Eh oui, la météo est là.
Vous avez fait un vers aussi. Enfin, il y a une rime interne. Mais quel rapport avec le chômage de tout à l'heure ? Enfin bon, non, je sais pas, la courbe du chômage.
Oui, faudrait-il que la courbe du chômage un jour s'inverse afin qu'il cesse sur Clamart surface de pleuvoir averse ?
Ah oh, ben c'est évidemment, c'est très magnifique. Oui,
je pourrais suivre.
Ouais. Non, mais c'est bien quand on les entend ensemble, Eva Almassi.
Moi, je dois avouer que j'ai un peu bâclé pour pouvoir écouter le roman interactif. Ah, alors là, c'est très court. Qu'il pleuve, vente ou bien fasse beau.
Ah, oui, c'est une alternative à trois branches.
C'est le choix de la météo en général, après.
Un verdict fatal constate la nouvelle dont le bref contenu incertain interpelle.
Alors, Hervé.
Et d'ailleurs, bâclé, elle commence bien pour l'être.
C'est vrai. C'est bien.
Patrice Delbourg.
Hélas, il bruine autant ici que dans les commodités de Saint-Jean-de-Perse.
Oh non, vous êtes toujours très sévère avec Saint-Jean-de-Perse. Il n'aime pas Saint-Jean-de-Perse. Eva.
Il va tomber des trombes, des tonneaux d'eau.
Oui, on est bien dans la météo. Chacun poursuit son sillon.
Ah ben, il y a un moment, on ne peut plus en sortir, hein, c'est sûr. C'est son petit micro-sillon, là. Alors, donc, le 4, le drame est confirmé de façon lapidaire, très officiellement, comme chez un notaire.
Hervé.
Tu te relis, c'est nul. Entre parenthèses, un mot barré en marge. Ça, c'est comme chez un notaire. Un mot barré en marge.
Ah, très bien. Bravo. Oui. Patrice Delbourg.
Depuis longtemps, le climat au pluvieux, par contumace, a été vendu.
Oui. Au plus vieux, oui. L'astuce sur au plus vieux, vous l'aviez vu ? Oui, bien sûr. Eva Almassi.
Ah, je croyais que c'est là qu'il fallait nous imputer un peu par message subliminal. Bon, ça ne fait rien, ça viendra. Donc, en 4, inondation, changement de climat, vous voilà averti.
Ben, c'est bien, elle fait la météo.
Ah, c'est le drame, oui, c'est bien ouais, ça.
C'est pas la météo marine, hein, c'est la météo pour tous.
Oui, Oui, mais déjà la responsabilité avec le changement de climat, j'ai anticipé, pardon.
Alors, sur un ton détaché, on propose un coupable, on suppose la cause et le vrai responsable de cette catastrophe. Message subliminal, c'est un peu grâce à vous que tout est allé mal, Hervé.
Donc, Hervé Le Tellier.
C'est peut-être le deuxième sandwich crudité mozzarella du Catherine que j'aurais pu m'abstenir de finir.
C'est ça.
Respect de la
consigne. Non, respect de la consigne, absolument. Ah, oui, c'est vrai. Patrice Delbourg.
C'est la faute au bon Dieu, je vous le dis tout net, Madame Michu.
C'est plus protéiforme, je dirais, chez Delbourg, non ? Enfin, il est dans la consigne, vous êtes d'accord ?
Ah, il est dans la consigne, il est dans les nuages aussi.
Mais voilà, parce que c'est un poète, oui, Eva Almassi.
L'anticyclone des Açores nous a encore trahis.
Ben, c'est toujours le cas, oui. Oui. Alors, quel est celui des trois qui se rapproche le plus ?
Hervé, effectivement...
Je suis au cordeau, là.
Et dans le drame intime qui s'annonce.
Et profond et passionnant.
Mmh. Après. On voit venir la fin, d'ailleurs, assez lourdement. Hein. Oui. Alors, quand même, là, un espoir, des secours, enfin hypothétique, c'est un recours possible, bien que très théorique, mais vu la triste ambiance, c'est sympa à entendre, Hervé. Mmh.
Oh, ben, si tu demandais l'aide à un copain en voyant un SMS, ah ben, il n'y a pas de réseau, bon, enfin, t'auras tenté.
C'est ça.
Patrice.
S'il n'y a plus de saison qui vaille dans nos villes repues, et si le ciel vénal est tombé en des mains malotrues.
C'est bien, de temps en temps, il y a deux vers comme ça. Il ne peut pas s'en empêcher. Eva.
Zodiac, barque, hélicoptère, les caméras à court, c'est vautours de reporter.
Ben, toujours. Hein. Ils vont filmer le changement de temps. Oui.
Oui.
Les cas.
Alors, rien ne s'arrange. Avec autorité, des êtres inconnus signalent votre cas et vous voici prévenu.
Hervé Le Tellier.
Le public te regarde avec mépris. Certains tweetent même 140 signes plutôt humiliants. D'autres écrivent carrément à la direction de France Culture.
Patrice Delbourg.
Mais voilà, je m'enrhume. Les médecins diagnostiquent une pleurésie.
Oui, vous voilà prévenus. Oui. Très bien, Eva Almassi.
À moi, sur le toit. Madame, on appelle le 112.
Ah oui, à ce point. Ça va mal dans les trois cas. Hein.
Oui, c'est un peu l'idée générale quand même. Ça commence mal et ça finit encore plus mal. Hein.
Ensuite.
Et la fin, donc ouais. Le drame est consommé. Dans un dernier instant, le combat va cesser, faute de combattants.
Hervé.
C'est fini. Applaudissements mous.
Fishing for compliments.
Ah oui.
Patrice Delbourg.
C'est pas bien, ça. Tu n'aurais pas dû.
Un ultime courant d'air va m'enlever à la vie.
Ah non, ça c'est triste, faut pas. Eva Almassi.
Ça ressemble beaucoup. Je coule, je me noie, mais la mort me sera douce.
Vous allez pouvoir partir ensemble. Bon, elles sont très bien leur textée, non ? Est-ce que vous pouvez justifier toutes ces consignes que vous avez données, Lucas Fournier ?
Avec la vraie version, oui, bien sûr.
Oui.
Un coup de semonce qui annonce un désastre.
Oui.
Si vous quittez cette page, vous risquez de perdre toutes vos données.
Ah, ben voilà, on n'est pas loin, on n'est pas loin.
Voilà, ensuite une alternative, accepter, refuser.
Oui.
Le verdict constate la nouvelle. Le système a récupéré une erreur service. Le drame est confirmé. Le journal de cette erreur a été créé. Sur un ton détaché, on propose un coupable, etc. Une modification récente du matériel pourrait être la cause de l'incident. Un petit moment d'espoir, quand
oui,
même.
Oui, s'il vous plaît.
Si des fichiers ont été endommagés ou configurés de manière incorrecte, l'outil de démarrage peut vous aider à les identifier ou à les corriger. Rien ne s'arrange. Nous avons créé un rapport d'erreur. Et le drame est consommé, bien sûr. Votre ordinateur s'arrêtera dans les 30 secondes.
C'est un très très bon choix. Le mot de la fin, c'est à vous, Eva Almessi. C'est vous qui l'avez, le mot de la fin.
J'ai écrit un suppose-que je propose à Hervé, s'il oui. veut bien.
Vous voulez ?
Oui, c'est le danger du direct.
Hervé, suppose que tu t'appelles Yal.
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 Yal. Ça vous Yal. Plaît ?
Oui, oui, très bien. C'est très joli. Bien, comme filiale. Voilà. Oui. Oui, pas de problème. Oui.
Tu as plein de capacités. Tu as obtenu un tas de diplômes, oui. fort décoratifs, dans leur cadre punaisé au mur de ta chambre. Mais hélas, signe des temps, tu ne trouves pas de travail. Tu te plains, Yal, tu chiales, finalement tu retrousses tes manches et tu réponds à des annonces. Pas n'importe quelle annonce, tu cibles les castings, Yal. Tu veux à tout prix participer à une émission de télé-réalité, Star Academy, Nouvelle Star, la voix royale vers la réussite, un avenir doré à la Julien Doré.
Oh, ça tu vises... ça, non? Non, vous connaissez pas Julien Doré. Hein. Vous connaissiez Zélinde, forcément.
Tu vises l'île de la tentation. Or, tu atterris sur l'île des vérités. Tu te rêves en Greg le millionnaire et ta maman soupire tristement en se demandant qui veut épouser mon fils. Le bonheur n'est pas dans le pré et tu n'es pas retenu pour garder les cochons avec Princess Erika et Aldo Macione à la ferme des célébrités. Le traumatisme est grave. Déjà tout petit, Jacques Martin t'a écarté de l'école des fans.
Non.
Si, en fait, je voulais pas qu'on en parle ici. J'avais dit à Eva si tu pouvais garder ces choses-là pour toi, mais c'est impossible de dire un truc
dring,
à Eva qu'elle répète pas.
Dring, dring, dring. Enfin, ton téléphone sonne. À tous les coups, on t'appelle pour opération séduction aux Caraïbes. Eh ben non, Yal, c'est Madame Mercier, ta conseillère pour l'emploi. Sous peine de te couper les allocations, elle te propose un stage de cuisinier. Tu te rends compte, un stage de marmiton, de coq, de maître queue, à toi, Yal, qui ne sait pas te faire cuire un œuf. Voilà qui te fait un effet bœuf. C'est dur à avaler, mais il faut bien gagner son pain. Ne chiale plus, Yal. Ne tourne pas vinaigre, un bon conseil. Accepte le stage sauce salée, sauce sucrée, et qui sait, bientôt, tu seras le grand gagnant de Top Chef. Le chéri de ces dames, blanche ou brune, espagnole, allemande, béarnaise, bolognaise, hollandaise, gribiche, béchamel ou au chocolat, te voilà arrivé, la mayonnaise va prendre. Vive la sociale.
Yala. Vive la sociale.
Bravo.
Les papous, vive la sociale, c'est fini. Une émission proposée par Françoise Tressart avec Anne de Pelchin, Pierre Mine, Philippe Mercher, Yannick Magnien, mixage Manuel Couturier, attaché de production Marie Dalquier. Une émission à podcaster sur franceculture.fr pour vos collections de papous en public. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, pour la première partie des papous tout amour. Au revoir.